BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est presque midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour. Et c'est le coup d'envoi du sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie, et des annonces de nombreux contrats d'armement dès ce premier jour. Selon un diplomate de l'Alliance, la valeur totale de ces contrats dépasse les 50 milliards de dollars, notamment avec Airbus et le suédois Saab. Objectif pour le chef de l'OTAN, prouver aux Américains l'engagement des Européens à renforcer leur capacité de défense, alors que Donald Trump leur reproche un manque de soutien dans la guerre déclenchée avec Israël contre l'Iran, le président américain qui arrivera cet après-midi en Turquie. En France, à l'aube de notre prochain débat budgétaire, le Premier ministre préside en ce moment même le comité d'alerte des finances publiques. Si aucune mesure nouvelle n'est prévue, on attend une révision des objectifs de croissance et d'inflation. D'ici là, un nouvel indicateur publié ce matin, celui du déficit commercial qui s'est nettement dégradé au mois de mai. Il frôle désormais les 7 milliards d'euros, soit 1,5 milliard de plus que le mois précédent. Et puis l'autre rendez-vous clé, il est politique. On connaîtra d'ici 1h30 le dénouement du procès en appel de Marine Le Pen, déjà condamnée en première instance dans l'affaire de détournement de fonds publics au Parlement européen. Seule une peine d'inéligibilité inférieure à 2 ans ou la relaxe lui permettrait de se présenter à la prochaine présidentielle. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers, des réponses à des questions. Et on a une question aujourd'hui, une belle question. Le climat peut-il, va-t-il modifier le marché des résidences secondaires? On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Vous avez un jardin? Est-ce que vous pourriez, je sais pas moi, y faire construire autre chose en plus de votre maison, ou d'ailleurs juste une maison, parce qu'on verra, il y a ce foncier invisible dont on va parler qui est assez intéressant. Comment justement optimiser nos usages du foncier? On verra ça pour notre débat, mais avant cela, c'est donc l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et Benoît Galli, le patron de Greenacre, est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour Marie.
Il fait chaud hein Benoît?
Nous on a la clim ici.
Arrêtez-nous aussi, on l'a en plateau, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Bon, clim ou pas, de toute façon il y a un vrai sujet quand même sur ces températures qu'on vit et ces canicules exceptionnelles qu'on vit depuis quelques semaines. Et cette question de, on a tous envie d'une résidence secondaire, mais ce climat qui change, ces températures excessives qui a priori sont pas prêtes de baisser, est-ce que ça va modifier ce marché des résidences secondaires? Je vais la faire courte. Est-ce que je vais arrêter d'acheter sur la Côte d'Azur et plutôt m'orienter vers le Nord-Ouest, par exemple?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'évidemment, on s'intéresse à la suite de la résidence, à l'avenir de la résidence secondaire chez Greenacre. Et donc, on est allé la poser à nos utilisateurs, tout simplement. Donc, en juin, on a fait un sondage auprès de nos utilisateurs où on a une tendance de marché. On a 250 répondants qui nous disent en fait oui, c'est-à-dire que pour 8 personnes sur 10, le climat compte. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, il y en a 45% qui nous disent ça va être un critère parmi d'autres, c'est-à-dire que maintenant le climat va compter au même titre que le prix, au même titre que l'emplacement. Et on en a même 38% qui nous disent oui, ça devient un critère majeur, c'est-à-dire que on voit que les internautes sont prêts à changer de région. Nous, on est un site, ce qui va caractériser Greenacre, c'est qu'on est un site de résidence de villégiature. Je cherche une maison à un endroit où j'habite pas. Si je cherche et que je vais visiter un bien à la sortie du travail pour aller pour ma prochaine résidence principale, je suis contraint sur l'emplacement. Et donc, ce qui est intéressant chez nous, c'est que les gens ont le choix. Donc, ils sont 88% à nous dire « je cherche à cet endroit, mais si vous me proposez ailleurs, ça m'intéresse ». Et donc, dans les grandes masses, ça n'a pas encore changé.
Alors, Benoît, on vous entend... Allô, vous m'entendez? Parce que alors j'allais dire vous passez oui, sous un tunnel, ce qui est techniquement impossible, hein, compte tenu du fait que...
Non.
Dans des bureaux climatisés.
Vous m'entendez correctement?
Ouais, là c'est mieux. Non, il y avait un petit bug quand même de connexion, mais là c'est beaucoup mieux. Je vous écoute.
Et donc, ce que je disais, c'est on a regardé les variations, et sur les variations de régions, les régions aujourd'hui qui sont les régions sur lesquelles il y a le plus de demandes, ce sont les régions du Nord. Donc, on s'aperçoit que là, on a la plus forte croissance sur de la demande de résidence secondaire. C'est des départements auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Donc, on va parler du Bas-Rhin, du Nord, même des Vosges. Et donc, quand on pose la question à son âge, ils nous disent « oui, à 38%, le climat devient un facteur décisif ».
Voilà, c'est reparti, Benoît. La connexion est fort mauvaise. Oui, alors là, la connexion est complètement... Non, vous m'entendez ? Je pense qu'on... Ouais, Benoît, on va peut-être pas insister parce que la connexion est pas tip-top, mais en gros, ce qu'on a bien compris, c'est que globalement, effectivement, ce climat commençait à avoir une incidence sur les localisations des résidences secondaires qu'on souhaite acheter. Juste une dernière question, si la connexion est revenue. Sur l'âge aussi... Ah non, la connexion n'est pas revenue. Bon, tant pis. Non, tant pis, on va abandonner l'idée, Benoît. Mais c'était hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet autour aussi de la valorisation de ce patrimoine, parce que c'est à ça que ça va nous amener. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on verra qu'on cherche davantage à acheter dans certains territoires plutôt que d'autres, on va avoir des prix qui vont peut-être augmenter là où il y avait peu de demandes et à l'inverse, peut-être corriger davantage là où on a des chaleurs assez excessives. C'est un vrai sujet, ça, cette valeur verte dont on parle depuis longtemps sur les passoires thermiques. Elle va se déplacer aussi sur les bouilloires thermiques et c'est un sujet qu'on va évidemment suivre dans les experts de l'IMO sur BFM Business. Désolé pour Benoît, désolé pour ce sujet des résidences secondaires et de notre connexion très mauvaise. On passe au débat tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Bon, là, au moins, vous êtes physiquement avec nous. Il y a assez peu de chances que la connexion ne passe pas, mais exactement. C'est ton jamais. Franck Terrizol, Natibox est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et à mes côtés également, Alexandre Gioffredi, le fondateur de Green Cube, aussi avec moi.
Bonjour.
Je le disais, on va aller construire dans nos jardins. C'est chouette, ça. De quoi on parle ? Parce que j'ai mis dans mon titre, à chaque fois, je mets abri de jardin. Je mets des titres un peu, raccourcis. Mais on n'est plus sur l'abri de jardin aujourd'hui. Non. Ce que vous faites tous les deux, c'est quand même des petites maisons, quoi.
Exactement. Ce sont des petites maisons. À l'intérieur de ces petites maisons, il y a à la fois des cuisines, des salles de bain, une pièce de vie. Ça se distingue véritablement de l'abri de jardin et du cabanon dans le sens où ce sont des surfaces qui sont totalement habitables.
Oui, c'est ça. Et avec des arrivées d'eau, l'électricité. Enfin, on a tout ce qu'il faut.
Il y a le raccordement, l'assainissement, l'électricité et l'eau, exactement.
Oui, ouais, alors Alban, notre réalisateur qui est très partie prenante de cette émission, il me dit que c'est une dépendance.
Alors, c'est plus qu'une dépendance, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement un choix de vie et je crois que ça répond aussi à un besoin essentiel des Français qui est l'espace. 70% des Français indiquent qu'ils manquent d'espace et le studio de jardin répond effectivement clairement à cela. On a aussi une crise de l'immobilier, vous n'êtes pas sans le savoir. Et donc, forcément, on a du mal à se loger, on a du mal potentiellement aussi à acheter. Le studio de jardin, là aussi, est une réponse à cela. Et puis, il y a le besoin des Français, de se reconnecter aussi avec la nature. Et là aussi, le studio de jardin, c'est une solution qui est parfaitement efficace.
Alors avant de venir sur ce que vous proposez, vos produits en réalité, qu'est-ce que je peux en faire ? On va déjà se poser la question de savoir s'il n'y a pas un sujet d'optimisation du foncier. Vous parlez de foncier invisible chez Green Cube, Alexandre. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, zéro artificialisation net. Personne ne découvre l'idée qu'on manque de terrain à bâtir et qu'on manque aussi de logements au sens large. Est-ce que c'est aussi ça ? Alors, le sujet.
Oui, tout à fait. En fait, ça permet également de valoriser un espace de jardin qui aujourd'hui est peut-être constructible, parce qu'aujourd'hui, monter des pouvoirs publics, c'est quand même de densifier les zones déjà bâties.
Ouais.
Et donc, depuis certaines années, en fait, là où avant, il fallait minimum, des fois, 2000, 3000 mètres carrés pour pouvoir faire construire. Maintenant, des fois, ces zones-là se sont réduites et seulement 300, 400 mètres carrés dans certaines communes peuvent suffire pour faire construire.
Oui, parce qu'à une époque, on avait des très grands jardins et aujourd'hui, on voit que les jardins rétrécissent aussi.
Les jardins rétrécissent de plus en plus, donc ça libère de la possibilité à optimiser justement un jardin qu'on possède déjà. On l'a déjà acheté il y a quelques années et donc on peut faire construire dessus, que ce soit une annexe à l'habitation ou une vraie construction.
Bon, alors on va maintenant rentrer dans le dur de ce que vous proposez. C'est quand même pas des vraies maisons ou c'est des vraies maisons ? C'est petit, c'est... j'ai le choix, c'est...
Alors, vous avez un choix, évidemment. Donc, chez Natibox, vous avez des maisons qui vont finalement de 7 à 55 mètres carrés avec des versions qui sont différentes. Vous pouvez effectivement en acquérir brute, prête à peindre. Et puis, vous pouvez en acquérir aussi avec un véritable studio, avec la cuisine, la salle de bain, une pièce, voire même deux pièces. Voilà. Donc, et elles sont en ossature bois. Donc, en plus, elles sont éco-responsables.
C'est Alors chez nous, c'est le positionnement de Green Cube, c'est de faire de la vraie construction, donc on respecte exactement les mêmes normes qu'une construction de maison classique.
Qu'un vrai constructeur de maison, quoi.
Exactement les mêmes normes. On est au DTU, on est soumis au DTU, c'est de la construction en ceinture bois. On a l'isolation qui est conforme à la réglementation environnementale 2020, et on respecte exactement les mêmes assurances, également les mêmes garanties qu'une maison classique.
Et sur justement sur la taille de ces maisons, parce que je vous pose la question parce que vous avez parlé, on a parlé très rapidement, mais on en a parlé quand même de cet enjeu de maximiser l'usage des terrains qui sont disponibles. Est-ce que par exemple ça peut être une vraie maison solo ou est-ce que c'est forcément ce que vous allez proposer? Voilà, est-ce que je peux par exemple avoir un terrain et vous appeler pour faire construire ma maison?
Oui, tout à fait. Nous, on le fait. En fait, on a beaucoup de clients qui ont un terrain et qui veulent. On a même des clients qui déménagent au fond de leur terrain. Des clients âgés qui ont des résidences qui sont trop grandes pour eux, difficiles à entretenir, un petit peu vieillissantes, et qui, plutôt que de les rénover, vont faire construire un logement neuf au fond de leur jardin, déménager dans la nouvelle construction et ils revendent l'ancien. Et donc, du coup, ça permet de récupérer.
Donc, ils font de la division parcellaire.
Donc, ça fait de la division parcellaire. Nous, on s'occupe également des démarches sur la division parcellaire. Ça leur permet, en fait, de récupérer un capital important qui est lié à la revente de l'ancienne maison et de faire construire la nouvelle.
Bon, alors justement, en fait, moi, ça va être aussi une autre de mes questions, c'est au-delà de la taille, bien que la taille, voilà, en termes de problématiques réglementaires, j'ai envie de dire, en fonction de la taille de mémoire, parce que c'est un sujet qu'on traite régulièrement, mais pas tous les jours à l'antenne, je crois qu'il y a un sujet entre permis de construire ou autorisation, enfin, ça se passe comment par rapport
au... Oui, tout à fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter le PLU, donc le PLU, il est fixé
par... Le plan local d'urbanisme.
Exactement, le plan local d'urbanisme, qui est fixé par la mairie et qui effectivement regarde l'aménagement des sols et l'utilisation des sols. Donc il est important d'aller voir sa mairie et de voir si il faut soit déposer un permis de construire, soit une déclaration préalable de travaux.
C'est quoi, exactement. C'est 20 mètres carrés?
Alors la différence, c'est ça. Effectivement, la déclaration préalable de travaux, c'est pour tout studio de jardin jusqu'à 20 mètres carrés, 20 mètres carrés compris, et au-delà effectivement de 20 mètres carrés, là par contre c'est un permis de construire. Voilà, il peut y avoir ici ou là des dérogations, mais en tout cas, dans la règle générale, effectivement, c'est celle-ci.
Et justement, c'est quoi qu'on vous demande à tous les deux? On vous demande plus du moins de 20 mètres carrés, de la pointe?
Dans les faits, il y a une petite idée reçue sur l'absence de permis de construire, parce qu'il y a quand même une déclaration de travaux, effectivement, comme mon conseiller
vient de le dire. Mais les délais ne sont pas les mêmes, Alexandre?
Les délais ne sont pas les mêmes. Dans les faits, c'est les mêmes pièces réglementaires qu'il faut. Ce qu'on gagne, c'est un mois de délai d'instruction. Et parfois, une instruction qui peut être. Ça peut faciliter aussi le fait que ce soit accepté quand on est dans une simple déclaration de travaux.
Ouais.
Mais nous, ce qu'on nous demande des fois à l'origine, c'est une idée reçue sur le fait que je veux quelque chose qui n'est pas de permis de construire. Mais finalement, on va plutôt essayer d'orienter sur le véritable besoin, parce que dans les faits, il y a une autorisation dans les deux cas.
C'est quoi le véritable besoin? Alors, pourquoi on vous appelle?
Alors, on nous appelle en fait pour différentes raisons. Un, ça peut être pour le travail, c'est-à-dire le télétravail se développe de plus en plus. Effectivement, je ne souhaite pas travailler au sein de la maison parce qu'il peut y avoir le bruit des enfants ou autre. Et donc, effectivement, je souhaite un studio de jardin. Ça, c'est une des raisons. Il y a la raison aussi qui est tout simplement le plaisir, le loisir. Donc, réaliser peut-être un pool house, réaliser aussi son envie pour son atelier de céramique, pour éventuellement son studio d'enregistrement. Donc voilà, la notion de plaisir, de bien-être, elle est effectivement très importante sur le studio de jardin. Et puis, vous avez aussi l'accueil peut-être d'un senior, puisque aujourd'hui, effectivement, on a une population qui est vieillissante et il est important, effectivement, de pouvoir prendre soin, effectivement, de nos aïeux, tout en leur permettant de garder, effectivement, une autonomie et de les avoir, en fait, près de chez soi pour pouvoir les aider si besoin. Et là, le studio de jardin est aussi une réponse à cela. À peu près, pour nous, c'est 15% de nos ventes sont réalisées pour des seniors. Et puis, vous avez une autre partie qui n'est pas négligeable, évidemment, c'est l'investissement. C'est-à-dire, je choisis un studio de jardin pour valoriser effectivement à la fois mon patrimoine et puis à la fois développer mes revenus. Et donc, on installe un studio de jardin au fond de sa parcelle.
On va parler de l'investissement
locatif. Ça peut être effectivement très rentable, incontestablement.
Mais il y a un sujet que vous abordez que je trouve hyper intéressant sur cette idée d'activité professionnelle presque. Et je me souviens des communiqués de Green Cube au moment du Covid sur, en gros, voilà, on est tous bloqués chez nous, mais on a envie aussi de continuer à développer une forme d'activité. Ça aussi, vous avez aussi évolué sur la manière et les offres proposées dans ces studios de jardin pour que ça puisse devenir un outil professionnel réellement, en fait.
Alors, l'outil professionnel, nous, le segment qu'on voit, qui est le plus présent chez nous, c'est pas tant le bureau de jardin, en sens, je vais faire du télétravail au fond de mon jardin.
Le cabinet.
C'est le cabinet de praticien, c'est le salon de coiffure, des fois, ou beaucoup de professions paramédicales aussi qui vont s'installer dans leur jardin.
Le kiné,
l'orthophoniste, l'ostéo, etc. Donc, effectivement, c'est un côté pratique. Et puis, il y a un côté aussi, je rentabilise mon jardin que je détiens à titre personnel et que je vais louer à ma société pour y développer mon activité. Et
donc, il y a même désormais aussi une utilisation hybride, en fait, du studio de jardin, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment, effectivement, investir, et c'est-à-dire le louer, le proposer, effectivement, à la location, et ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser lorsqu'il n'est pas loué, pour une salle de cinéma ou autre, pour une chambre d'amis,
accueillir Franck, ses proches. Il n'arrête pas entre le pool house, la salle de ciné. Non, mais...
tout l'avantage du studio de jardin.
Et de ses usages aussi qu'on peut en faire. Donc, sur l'aspect professionnel, j'ai le sentiment quand même que ça existe, mais c'est pas ce qu'il y a de plus massif. On parlait d'héberger les seniors. Et les juniors aussi, j'ai envie de dire, peut-être nos jeunes.
Alors, il y a aussi effectivement les étudiants, j'en parlais effectivement en début d'entretien, qui ont du mal à se loger, à trouver des locations. Et effectivement, ils peuvent rester chez l'habitant.
Chez leurs parents.
Ou alors
aussi,
chez leurs parents, exactement.
C'est quelque chose aussi que vous voyez, parce qu'on parle beaucoup de la crise du logement au quotidien sur BFM Business et dans les experts de l'IMO. Et là, on sait que la rentrée étudiante et la chasse au logement étudiante, bon, c'est de pire en pire chaque année, on le refait à chaque fois le sketch, mais est-ce que ça peut pas être aussi une solution qu'on vous demande de plus en plus, en fait?
Sur la partie locative, aujourd'hui, la location saisonnière est tellement intéressante que la location étudiante est quand même moins disante en termes de rentabilité.
Ouais.
Par contre, ce qu'on constate effectivement, c'est des clients propriétaires qui ont des enfants, qui arrivent pas à se loger, et la division parcellaire, là aussi, constitue une bonne solution pour arriver à trouver une solution et de permettre à leurs enfants d'accéder à la propriété, de construire une maison au fond du jardin.
Mais donc, Alexandre, c'est comme Franck, en fait, vous me dites que globalement vos solutions, elles sont davantage demandées par des gens qui veulent faire un investissement locatif, quoi.
Alors non, nous on n'a pas l'investissement locatif chez Green Cube, ça représente à peu près 20-25%
du marché.
Le reste étant quand même sur de l'usage personnel. Après, effectivement, au même titre que ce que Franck disait, on a une grosse utilisation hybride de nos studios qui peut constituer n'importe quel type d'usage.
Ouais.
Et l'été, en période estivale, je vais le louer pour le rentabiliser aussi. Donc la part du locatif, elle peut être d'un côté professionnel entre guillemets parce que je vais faire ça toute l'année, ou de manière un peu plus épisodique parce que à certaines périodes je vais le mettre en location et le reste du temps je vais l'utiliser pour mon usage personnel. Nous, on est très clairement la majeure partie de nos ventes chez Green Cube sont plutôt constituées de vrais logements, donc des logements qui vont avoir un usage à l'année, avec des gens qui habitent nos constructions vont de 11 à 100 mètres carrés, donc on a quand même un scope
qui est un petit peu plus large. Sur la vraie maison. Ouais, le 12 pièces parisien, quoi. Mais bon, bref, blague à part, quels sont vos prix? Parce que ça aussi, c'est le sujet. On parle beaucoup de l'investissement locatif et donc de l'idée de rentabiliser aussi le foncier qui n'était pas utilisé. Mais quel rendement je peux espérer en me payant une maison, enfin un abri de jardin, un studio de jardin Nativox ou Green Cube? En gros, quels sont vos tarifs?
Alors, le rendement, il va dépendre principalement de là où on se situe déjà.
Oui, évidemment, le loyer que je vais pratiquer dépend...
Du taux d'occupation, alors le prix qui rentre en ligne de compte, il y a le taux d'occupation, et après le tarif à la nuitée auquel je vais être capable de louer mon studio.
Si c'est de la résidence, si c'est de...
Nous, ce qu'on vend le plus pour de la location, c'est ce qu'on appelle le GK20, donc c'est un studio qui fait 20 mètres carrés, donc avec deux couchages. On en a un autre aussi avec une mezzanine qui permet de rajouter encore deux couchages supplémentaires. On va se situer autour de 65 000 euros TTC, livré, installé, clé en main, avec les raccordements tout compris.
Oui, alors nous, on a effectivement deux studios de jardin qui représentent à peu près 70% de nos ventes.
Ouais.
C'est le Cozy avec 20 mètres carrés. Et ensuite, on a la Maxi aussi avec 28 mètres carrés. Voilà. Et vous pouvez, avec ceci, avoir des rentabilités de quasiment 20%, des rentabilités de 20% brutes. Voilà.
Ah!
Oui, brutes.
J'avais vu la tête.
Mais ce qui déjà, par rapport à l'immobilier classique, n'a strictement rien à voir.
À condition aussi qu'il y a une occupation, un taux d'occupation élevé, quand même.
Évidemment, c'est les deux, effectivement, métriques. C'est le taux d'occupation et, effectivement, le prix à la nuitée, comme le disait Alexandre. Ce sont les deux mesures qui font que, effectivement, vous pouvez aboutir à une très bonne rentabilité.
Et sur les tarifs au mètre carré
Alors, les tarifs au mètre carré, en fait, on est à peu près à 1500 euros du mètre carré lorsque vous avez une Natibox brute.
Donc
prête à peindre et ainsi de suite. Et il faudra l'aménager. Et ensuite, vous êtes entre 2000 et 2400 euros lorsque, effectivement, effectivement, tout est compris jusqu'au raccordement.
Et du coup, par rapport à ces usages en location et avec des rendements qui, sur le papier, sont évidemment hyper alléchants, ma question c'est, est-ce qu'on va sur de la location longue durée ou est-ce que c'est évidemment beaucoup plus la location touristique ?
Nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est clairement de la location touristique. Après, ça va dépendre des régions aussi.
Ouais.
Mais très clairement, il y a deux avantages, parce qu'on se situe au fond du jardin, la location.
Ben oui, parce que j'allais vous poser... Voilà. Alors là, du coup, la réglementation, elle me paraît assez floue là-dessus, du coup.
Bah, au fond du jardin, le mauvais locataire, il arrive, il repart aussi rapidement qu'il est venu, parce que c'est de la location saisonnière, et que donc, du coup, on est sur des périodes très courtes. Si vous êtes quand même chez vous, dans votre jardin, la location de longue durée s'y prête un petit peu moins.
Ouais, déjà.
Par la typologie du bien en question, l'occupation des habitants qui sont là à l'année, et donc qui n'ont pas nécessairement envie de partager leur environnement avec un locataire à l'année.
Non, bien sûr, mais par rapport à la réglementation liée à la location saisonnière, je me pose une question. Est-ce qu'on est toujours en résidence principale et donc on est soumis aux règles de la location saisonnière en fonction des villes dans lesquelles je me trouve, classique ? Enfin, est-ce que je considère que c'est la résidence principale que je loue ? Est-ce que c'est autre chose ?
C'est une pièce de la résidence principale.
Donc du coup, voilà, on n'est pas sur une résidence...
À partir du moment où on n'est pas sur une résidence secondaire, ouais. C'est une annexe en fait à la maison et c'est considéré effectivement comme une pièce de la maison.
C'est hyper intéressant parce que est-ce que du coup, ce que vous proposez, c'est pas de nature à plaire aussi aux collectivités locales qui luttent justement contre des maisons au volet fermé 8 mois sur 12 et qui se disent, bah tiens, ça peut être aussi une solution, maximiser l'espace, permettre aux propriétaires de faire des revenus et de la location touristique sans empiéter finalement sur la location longue durée.
Il y a des collectivités effectivement qui nous ont rejoints effectivement et nous posent aujourd'hui des questions pour les accompagner effectivement dans de l'hébergement et des solutions aussi potentielles d'urgence.
Ah ouais, alors à l'inverse, peut-être héberger les saisonniers qui ont du mal à trouver des logements, c'est génial.
Exactement. Donc c'est aussi un débouché pour le studio de jardin.
Et vous discutez avec les maires de certaines régions de France.
On discute avec les maires effectivement de certaines communes, oui, tout à fait.
Alors nous, on fait pas spécialement de logement d'urgence. On a un positionnement en matière d'isolation, de règles de construction qui fait qu'on a
positionnement... Oui, donc vous le disiez, R20, j'imagine aujourd'hui, version 2026. Voilà. Hein,
Nous, on a un produit qui est un petit peu surdimensionné pour le logement d'urgence. Donc aujourd'hui, nous, clairement, le marché du particulier qui souhaite un logement à l'année durable et qui va se valoriser au même titre que sa maison, que sa résidence principale, ça, c'est notre segment. Voilà.
Juste pour revenir sur les particularités de vos modes de construction, on est bien sur de la construction hors site, messieurs. C'est à peu près ça l'idée, je vais imbriquer les machins.
Alors, il y a hors site et hors site. Nous, on fait de la préfabrication en amont, donc on va fabriquer les cadres qui vont constituer l'ossature de la construction.
Ouais.
Ensuite, ces cadres sont acheminés sur le chantier et assemblés sur place par nos équipes.
D'accord.
Donc, on n'est pas sur de la fabrication hors site. On va construire le module en 3D et le livrer avec une grue. On va le construire en 2D. On va préfabriquer un maximum les éléments en amont de manière à gagner le plus de temps possible sur le chantier.
Vous me voyez venir, c'était pour ça que je vous posais la question.
Et derrière,
c'est combien de temps, quoi ?
Parce que derrière, nous, l'idée, c'est de pouvoir accéder à tous les chantiers, même si on a des difficultés d'accès, un petit portillon à passer, le séjour à traverser pour aller installer le jardin qui est de l'autre côté de la maison, on veut conserver la possibilité de le faire.
Mais du coup, messieurs, compte tenu de vos modes constructifs, combien de temps ça prend d'avoir sa maison, son abri de jardin, son studio de jardin, je ne sais même plus comment
le studio de jardin, nous, en fait, on le livre en une demi-journée chez Natibox, tout simplement parce qu'en fait, nous, c'est de la construction justement en 3D, c'est-à-dire qu'elle sort de l'usine Pobi, qui sont les spécialistes des panneaux à ossature bois industrialisés.
Vous mettez des petites routes.
Exactement, voilà. qui est situé à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre, donc vraiment quasiment au centre de la France. Donc, on peut livrer très rapidement l'ensemble des Français. Et on installe en une demi-journée, effectivement, ça nécessite évidemment l'acheminement et ça nécessite aussi une grue qui ensuite pose la Nati Box sur le jardin.
Vous la posez, mais vous arrivez à avoir des raccords
Tout ceci a été fait évidemment en amont, c'est-à-dire qu'on a préparé le terrassement, on a positionné aussi des plots en béton et la grue ensuite pose la Nati Box sur effectivement cet emplacement. Il n'y a plus qu'à raccorder et finalement, lorsqu'elle est posée à midi, en fait, on peut s'en servir dès l'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est un avantage évidemment non négligeable. Le rêve à portée de main, en fait.
Oh, il le fait bien. Alexandre, en termes de délai chez vous, GreenCube, on est...
On fait pas mieux. Nous, on construit sur place. Donc après, on a mis en place une logistique un petit peu particulière qui nous permet d'installer très rapidement. 100% du matériel est livré le premier jour du chantier. Donc un studio de 20 mètres carrés, on va être capable de le monter chez Green Cube en 5 jours en moyenne. On démarre le lundi, on a terminé le vendredi.
C'est quand même spectaculaire.
Et une maison de 100 mètres carrés, on va être capable de l'installer en 60 jours. Voilà.
Je marque l'arrêt. Une maison de 100 mètres carrés, vous me l'installez en 60 jours.
En 60 jours, tout à fait.
Elle est aussi stable et solide que n'importe quelle maison.
Elle répond exactement aux mêmes normes que n'importe quelle maison. Tout à fait. Et ça, c'est pas le procédé constructif qui nous permet de faire ça. C'est vraiment toute la chaîne logistique. Quand vous allez construire une maison classique, systématiquement, moi j'ai déjà eu des expériences de construction par le passé dans des maisons classiques. Et quand vous arrivez sur le chantier, en règle générale, il y a jamais personne qui travaille. Vous avez un électricien en train de bricoler
dans un coin. Les clichés.
Chez Green Cube, ce qu'on a le hack entre guillemets, c'est qu'on a une équipe de 4 personnes qui sait exactement ce qu'ils ont à faire du déchargement du camion jusqu'à la remise des clés. Il y a une forme de notice qui est établie en amont et qui permet en fait de scripter entre guillemets.
C'est hyper centralisé, c'est ça que vous voulez dire. Il n'y a pas plusieurs corps de métier qui vont.
Il n'y a pas plusieurs corps de métier. Tout le matériel est disponible sur le chantier, donc on n'est absolument pas soumis aux ruptures de livraison.
Il n'y a pas de fondation, messieurs, dans vos trucs là.
Si, bien sûr, il y a des fondations.
Et ça, c'est peut-être ça qui prend peut-être le plus de temps, non?
Alors les fondations, de toute façon, ça c'est nous. Il y a forcément un délai de temps de séchage à respecter si c'est des fondations maçonnées. Après, on travaille également avec des fondations sur vis comme Technopieu par exemple.
Ben voilà, vous le savez. Enfin, Alban le sait puisqu'il m'a posé la question.
Chez Metibox, c'est pas tout à fait des fondations. Simplement, ce sont des plots béton. Il peut y en avoir en fonction de la taille de la Natibox. Il peut y en avoir effectivement soit 4 ou soit 6. Voilà, donc c'est très simple et ça peut être fait effectivement par n'importe quel artisan tout corps d'État.
Et ça, oui. Alors Alban arrête pas de me poser des questions, mais après il me reproche de pas tenir les timings alors qu'il nous reste que 2 minutes. Alban, il va falloir que tu viennes en plateau. Qui me pose la question de l'assurance. Et il me dit, est-ce que ça joue sur l'assurance justement le mode de construction et justement est-ce qu'il y a fondation ou il y a pas fondation?
Alors ça joue pas que sur l'assurance, ça joue aussi sur la capacité à faire financer le bien derrière, parce que
crédit IMO ou pas crédit IMO, la dernière question.
Alors crédit IMO, dans la plupart des cas, ça va dépendre principalement de la surface, de l'usage, de la capacité financière aussi du client et de son rapport à la le crédit consommation, c'est jusqu'à 75 000 euros il me semble, donc en dessous de ce seuil là on peut rester dans un crédit travaux.
Crédit conso c'est plus cher messieurs.
Mais c'est beaucoup plus cher, et donc si on a la possibilité d'accéder au prêt immobilier
éligibles à un crédit immobilier.
Mais même si on prend un crédit à la consommation au regard de de la valeur en fait locative, de toute manière, vous vous y retrouvez, et bien souvent, en fait, sur un mois, vous faites déjà.
Vous voulez dire qu'on rentabilise très vite et on arrive sur un retour sur investissement assez rapide.
On rentabilise très très vite.
Mais il y a quand même ce sujet-là de savoir effectivement comment je le finance. C'est quand même pas rien.
Effectivement, ça, il faut voir avec sa banque si vous êtes éligible à un prêt IMO ou si effectivement vous prenez un prêt conso.
Et il nous reste que 50 secondes et Alban va me fâcher, mais j'ai quand même une dernière question. Fiscalité locale.
Alors, d'aménagement.
Vous avez une taxe d'aménagement, qui généralement se situe entre 1000 et 2500 euros, qui est payable simplement en une fois. Hein, donc là, c'est du one shot. Et après, vous avez une augmentation très légère
de la taxe foncière
parce que vous élargissez effectivement votre logement. Mais généralement, comme le nombre de mètres carrés est quand même assez contraint, ça va pas augmenter énormément la taxe foncière. Et on peut dire qu'on est peut-être de l'ordre de 200, entre 150 et 350 euros.
Mais ça concurrence très largement le déménagement en matière de fiscalité, parce que si vous restez chez vous, vous n'avez pas à repasser chez le notaire.
Et oui, et en fait, et bon, on n'aura pas le temps de le dire, mais en fait, cette crise du logement qu'on connaît, cette crise de la construction, finalement, elle fait aussi vos affaires. C'est-à-dire quand on n'a pas les moyens financiers de se payer une baraque plus grande, finalement, le sujet, c'est peut-être d'optimiser aussi l'usage de notre terrain pour construire plus grand et donc agrandir ce qu'on avait déjà.
Exactement.
C'était passionnant, messieurs, et je suis au regret de vous dire que ça y est, Alban a fait partir le jingle de l'émission. C'est sa façon à lui de me dire, Marie, il faut dire au revoir à tes invités.
Merci à tous les deux.
Franck Terizol pour Natibox et Alexandre Gioffredi pour Green Cube d'avoir été avec nous. Les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.